talking to me? You talking to me?
My time's over, kid.
Are you ready?
I never play.
Si l'Amérique m'était comptée.
En 1969, une jeune Française nous parlait de son idole de jeunesse.
J'avais 15 ans quand j'ai fait cet album. J'étais pensionnaire dans un collège en province, à Clermont-de-l'Oise. Et avec mes amis, nous faisions collection des photos de James Dean. Il était pour nous l'adolescent rebelle dans lequel nous nous réincarnions plus ou moins. James Dean était un révolté. Et nous étions des révoltés. James Dean, c'était notre grand frère. C'était mon grand frère.
James Dean, le grand frère de toute une génération d'ados révoltés. James Dean est né le 8 février 1931, à Marion, dans l'Indiana. Il est mort trop tôt, 24 ans plus tard, au volant de sa Porsche 550 Spyder à Cholem, en Californie. Entre les deux, quelques rôles dans des pubs, au théâtre, au cinéma et surtout, trois films. À l'Est d'Éden, La Fureur de Vivre et Géant. Trois films, une Porsche et une fin tragique, c'est tout ce qu'il aura fallu à James Dean pour devenir le symbole d'une nouvelle Amérique, jeune et rebelle. Si l'Amérique m'est à compter, comment James Dean a inventé la figure de l'adolescent ?
Hi guys.
Et pour commencer cette émission, voici un tube de 1954, bande-son de la naissance du rock and roll et de la génération James Dean. Voici Rock Around the Clock par Bill Haley et ses comètes.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is it, glad, glad, so join me home. We'll have some fun.
Il y a des civilisations sociologiquement sans adolescence.
C'est ce qu'écrivait le sociologue Edgar Morin dans la Revue des Annales en 1969.
Oui, après les bouleversements de mai 68, il était urgent de comprendre qui étaient ces jeunes qui chahutaient la France à papa.
Mais surtout, dans son article, Edgar Morin écrivait
« Une culture adolescente juvénile, relativement nouvelle, se constitue vers les années 1955 à partir d'un certain nombre de films, dont les plus significatifs sont ceux de James Dean et Marlon Brando.
D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Edgar Morin a écrit son œuvre intitulée « Le cinéma ou l'homme imaginaire » au cours de l'année 1955.
1955, c'est l'année où sur les écrans on peut voir « À l'Est d'Éden » et « La fureur de vivre ».
1955, c'est l'année où est tourné « Géant ».
Toujours avec James Dean.
Et 1955, c'est l'année où meurt James Dean, à seulement 24 ans.
Ainsi, aujourd'hui, si l'Amérique m'était comptée, on irait à la rencontre de cette étoile filante qui a contribué à construire une génération, la star absolue, James Dean.
James Dean ou Jimmy, pour notre premier invité. Philippe Besson vient de publier aux éditions Julliard « Vivre vite », un roman polyphonique sur l'icône James Dean. Il dresse pour nous le portrait intime d'un jeune mec de l'Indiana en route vers la gloire à bord de sa petite garce.
La carrière de James Dean fut la plus spectaculaire, mais la plus courte de l'histoire d'Hollywood. Moins de deux semaines après le tournage de son troisième film, James Dean était mort, victime d'un accident de voiture. Il avait 24 ans.
Philippe Besson, bonjour.
Bonjour.
Votre dernier roman, Vivre vite, parle de James Dean, mais vous êtes romancier. Donc vous avez un pouvoir absolu. Ce pouvoir merveilleux, vous l'utilisez, c'est celui de rencontrer tous les gens qui ont croisé la vie de James Dean, même ceux qui ont disparu. Et ben justement, vous les avez rencontrés dans cette enquête. Moi, je vais vous demander un peu ce qu'ils vous ont dit. Et si on commençait par Mildred Dean, la maman?
Ah, Mildred, c'est un personnage pour moi incroyablement émouvant et je me suis rendu compte que c'était une femme tout à fait singulière parce qu'on est dans l'Indiana, dans les années 30. C'est un état du Midwest, c'est en dessous du Michigan, c'est un état où il fait genre moins 20 l'hiver, 35 l'été, c'est un peu paysan, bon. Donc c'est pas une intellectuelle de New York des années 2000, Mildred. Et pour autant, elle va élever son fils en lui apprenant la danse, les claquettes, la comédie, en éveillant ses sens, sa curiosité, sa sensibilité, dans un rapport extraordinairement fusionnel parce qu'il est fils unique. Avec déjà un peu l'absence du père, parce que le père est prothésiste dentaire et donc un peu éloigné, impliqué dans sa vie professionnelle. Et entre ces deux-là va se jouer quelque chose de formidable. Donc une enfance incroyablement joyeuse entre eux deux, qui va se briser net lorsque Jimmy atteint l'âge de 9 ans, parce que Mildred, qui elle n'a pas 30 ans, va découvrir qu'elle est atteinte d'un cancer et va succomber à cette maladie. Et l'enfant de Jimmy est là auprès de sa mère en juillet 1940, tandis qu'elle agonise et tandis qu'elle s'en va.
Fairmont. Ville de 2800 habitants dans l'Indiana, en plein cœur du Middle West. C'est là que naît James Dean le 6 février 1931. Le père est mécanicien dentiste. La mère n'a qu'une passion, Lord Byron. Si bien que l'enfant s'appelle James Byron Dean. Mais en 1939, alors que sa famille a gagné Los Angeles, le monde se casse. Sa mère meurt lorsqu'il a 9 ans.
Philippe Besson, une première remarque, vous l'appelez Jimmy.
Oui, parce que tout le monde l'appelait Jimmy. Ou on dit James Dean, ou on dit Jimmy, voilà.
Et justement, Mildred, la maman de James Dean, vous a dit qu'elle est bien consciente que toutes les mères sont très fières de leur enfant, qu'elles trouvent toujours le plus beau, mais que là, avec James Dean, donc qui est né en 1931 dans l'Indiana, elle a affaire effectivement à un authentique vrai beau bébé.
Oui, et c'est qu'elle le trouve le plus beau bébé du monde. Bon, toutes les mères encore une fois disent ça, mais les yeux clairs, les cheveux plutôt clairs aussi, blonds. Il y a comme ça un côté très angélique déjà dans l'enfance et en même temps d'un peu différent parce que très vite on va découvrir que James Dean est myope, qu'il a quelques maladies, il peut tomber, s'évanouir, etc. Donc il est un peu fragile physiquement. Donc il y a ça chez lui, cette beauté incandescente et déjà une forme de vulnérabilité, comme quelqu'un qu'on pourrait blesser. C'est comme un ange qu'on pourrait blesser.
La famille Dean a quitté l'Indiana pour s'installer en Californie pour suivre le papa qui a trouvé un travail là-bas. Et le décès de la maman bouleverse la vie du gamin. James Dean est renvoyé chez un oncle et une tante et le père reste en Californie. Vous l'avez aussi rencontré, Philippe Besson, le père de James Dean, Winton Dean. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit? On l'a beaucoup accusé d'avoir abandonné son gamin.
Et moi, j'étais comme tout le monde, finalement. Je pensais aussi que c'était un sale type qui avait abandonné son fils. Ce qui est techniquement vrai, hein, puisqu'effectivement, donc Mildred meurt en juillet 1940. Il faut à ce moment-là rapatrier le corps depuis Santa Monica jusque dans l'Indiana. Donc, c'est un peu plus de 2200 miles à parcourir en train. L'enfant va d'ailleurs parcourir ce chemin avec sa grand-mère dans le train qui ramène le corps de Mildred. À chaque arrêt du train, il va descendre pour aller parler au cercueil de sa mère. Mais juste avant, effectivement, sur le quai de la gare de Los Angeles, le père dit au fils « Je ne t'accompagne pas, je t'abandonne ». Donc c'est un acte extrêmement violent puisque l'enfant se retrouve orphelin de facto. Sa mère est morte, son père l'abandonne. Mais en même temps, on peut comprendre son fonctionnement au père parce qu'il dit « Je serais incapable de t'élever. D'abord, je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Et ensuite, je suis qu'un pauvre homme, démuni. Je ne sais pas comment on fait avec les enfants. Donc je préfère te confier à ton oncle et à ta tante, Hortense et Marcus, qui eux sont des gens formidables et qui d'ailleurs l'élèveront magnifiquement. » Le reproche qu'on pourrait adresser au père, c'est moins celui-là que celui de son indifférence des années plus tard. C'est-à-dire quand son fils va revenir le voir des années plus tard et qu'il lui dira « je veux devenir comédien », le père lui dira « non ». Et quand le fils reviendra avec Elia Kazan, alors qu'il a le premier rôle dans « À l'Est d'Éden », au moins le père pourrait être fier de son fils et non, il ne le sera pas. C'est-à-dire que ces deux-là n'arriveront jamais à se trouver.
Et il est élevé donc par Hortense et Marcus, l'oncle et la tante, dans un environnement, on va dire, extrêmement rural, baigné des valeurs traditionnelles, chrétiennes. Ça se passe très bien pour ce gamin.
Ouais, c'est des Quakers, les Winslow, et qui l'élèvent en pleine nature, hein, avec les vaches, les cochons, dans la ferme, à Fairmont. Bon, voilà, une enfance au grand air, où le gamin va monter dans les arbres, va apprendre à conduire un tracteur, va, voilà. Le vrai changement dans sa vie, c'est quand il rencontre Adeline Brookshire, qui est sa prof d'art dramatique à l'école.
Je sais ce qui m'a d'abord frappé chez lui, les yeux. Il y avait quelque chose de lumineux et de violent dans son regard.
Philippe Besson, vous l'avez croisé aussi, Adeline. Et elle aussi, elle vous a parlé de James Dean, qui est un adolescent sublime. Tout le monde le remarque.
Sublime, il y a discussion d'ailleurs, hein, parce que... Oui, quand on le voit, et quand on voit surtout les photos, on tombe à la renverse parce que cette beauté écrasante, mais qui n'est pas une beauté évidente. Parce qu'il n'a pas les canons, justement, de la beauté de l'époque. On imagine que les canons de la beauté de l'époque, c'était de faire 1m85, d'avoir une mâchoire très carrée et un côté un peu très viril. Et lui, juste, il fait 1m72, il est voûté, il voit rien, il a les cheveux en broussaille. Comme il est insomniaque, il a des poches sous les yeux, il marmonne. Donc franchement, il n'a pas les critères dès le départ. Sauf que quand il entre dans une pièce, ou quand il joue la comédie, on ne voit plus que lui. Ça s'appelle la grâce.
Ouais, le charme incroyable d'ailleurs. Adeline vous dit on n'a rien compris à James Dean si on n'a pas compris sa fragilité.
Ouais.
C'est ça la force de James Dean aussi, c'est la fragilité.
Ouais, moi je crois que c'est ça, c'est-à-dire que c'est du verre. Il y a quelque chose chez lui de très puissant, volontaire, ambitieux. Il y a une détermination très forte. Et puis à côté de ça, il y a une capacité à s'effondrer, une douleur tue. Et la comédie va l'aider à ramasser ses obsessions, à ramasser ses névroses, à exprimer aussi ses désirs, ses envies. Et en même temps, il va le faire avec une puissance incroyable. C'est-à-dire qu'Adeline, elle dit, si vous lui faisiez jouer un tueur, vous pensiez vraiment qu'il allait vous tuer.
Mais c'est vrai que cet ado fait du théâtre dans sa campagne, tranquille, avec son oncle et sa tante qui l'élèvent. Malgré tout, Philippe Besson, vous avez croisé Paul Weaver, l'entraîneur de basket, parce que James Dean fait du sport, il se défonce à fond. Et lui vous explique que quand même, James Dean, Jimmy, a un caractère très difficile.
Il a un vrai caractère de cochon. C'est-à-dire que, à la fois, c'est un timide rentré comme ça, il est un peu un taiseux, il peut rester dans son coin et rien dire du tout. Et puis, à certains autres moments, il va s'exprimer pour le meilleur comme pour le pire. Alors, s'exprimer par exemple sur le terrain, dit son entraîneur, parce qu'il dit, sans lui dans l'équipe, on perdait, avec lui, on gagnait. Donc, parce qu'il a la niaque, parce qu'il a envie, parce qu'il se bat, parce qu'il a envie de gagner. Et en même temps, il a déjà un caractère de cochon, il est déjà un peu insolent, déjà un peu irrévérencieux, déjà un peu arrogant, déjà un peu fantasque, et qu'il est difficile à gérer.
I guess you're about the best looking gal we've seen around here in a long time. I think. Prettiest than I think I've seen down here.
Why, thank you, Jen. That's a very nice compliment. And I'm going to tell my husband I've met with your approval.
Et puis, Elizabeth Taylor, que vous avez, on va dire, croisé encore une fois, Philippe Besson, vous dit quelque chose qui est une confidence que lui a faite il y a longtemps, James Dean.
Ouais.
C'est la relation avec le pasteur. Elle est ambiguë, cette relation, évidemment. Le pasteur a abusé de lui. En tout cas, il s'est passé quelque chose d'étrange.
Oui, il se passe quelque chose avec le pasteur, alors ça dépend comment on regarde les choses. C'est-à-dire, si on en croit Elizabeth Taylor, il aurait été abusé sexuellement par ce pasteur durant l'adolescence, et Jimmy lui aurait confié ça sur le tournage de Géant, puisque le dernier film que Jimmy Dean tourne, c'est Géant, sous la direction de George Stevens, partenaire Liz Taylor, et pendant le tournage, il lui aurait confié cela, et elle n'a jamais livré cet aveu au public, sauf après sa mort. Elle avait dit, une fois que je serai morte, vous pourrez, dans mes mémoires, dire cela. Donc, c'est pour ça qu'on l'a su relativement récemment. Alors que ce qu'on savait jusque-là, c'était plutôt que le pasteur, certes, avait visiblement beaucoup aimé Jimmy Dean, mais qu'il l'avait un peu éveillé à plein de choses qui ont beaucoup compté pour lui dans sa vie. C'est lui qui va lui apprendre le bongo, et il va jouer du bongo beaucoup, et peut-être un peu trop à casser les oreilles des gens. C'est lui qui va l'amener à la corrida, et on sait qu'il est fou de corrida, on sait qu'il y a des photos de lui comme ça, avec la muleta, etc. C'est assez beau. C'est le pasteur aussi qui va l'amener aux courses automobiles, et on sait la passion de Jimmy pour la bagnole. Donc c'est vrai que c'est très ambigu. Mais en même temps, on voit pas très bien pourquoi Elizabeth Taylor aurait inventé cet aveu.
Et puis, pour ce gamin qui est timide, malgré tout, on pourrait imaginer qu'il allait suivre la voie tracée par son oncle et sa tante, un peu strict mais extrêmement gentil. Enfin oui. Bon, c'est la morale américaine de la campagne profonde, sauf qu'il se barre. Lui, il se dit « je vais en Californie ». Il y avait été une petite période dans son enfance, avant le décès de sa mère. C'est là-bas qu'il retourne.
Il retourne effectivement en Californie parce que c'est la Mecque du cinéma, parce que c'est Hollywood, parce que c'est là qu'il a une chance de se faire remarquer. Il a compris, il veut faire du cinéma. Alors, il a commencé par faire du théâtre. On oublie d'ailleurs qu'il a joué Gide, il a joué l'immoraliste de Gide. Bon, comme c'est bizarre. Et l'idée, c'est qu'il retourne là-bas en se disant « je vais peut-être décrocher un rôle ». Et il fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il est un peu en colocation avec un ami qui est lui aussi apprenti comédien, Bill Bast, qui deviendra après scénariste. Et puis il cherche des petits boulots, donc il a une agent qui essaie de le mettre dans des endroits, dans des panouilles à la télé. Et puis il va aussi rencontrer un publicitaire influent à Hollywood qui s'appelle Rogers Brackett, au moment où il garde des voitures, parce que pour gagner de l'argent, il garde des voitures sur les parkings. Et un jour, il garde une voiture sur un parking, et la voiture, c'est celle de ce publicitaire, et il va comprendre que ce publicitaire peut lui être utile et lui ouvrir justement quelques portes à Hollywood.
Now go get Pepsi for the Pepsi bounce. More bounce to the ounce, more bounce to the ounce. Go get Pepsi for the Pepsi bounce.
Then why take less when Pepsi's best? More bounce to the ounce with Pepsi.
Ooh, my Pepsi.
Alors Philippe Besson, je voudrais qu'on s'arrête justement sur cette relation étrange avec Rogers, le publicitaire qui est plus âgé que lui.
Oui.
Bon, il y a une relation d'amour sexuelle, oui. Il y a un truc entre les deux, mais pour James Dean, c'est extrêmement conscient, mais aussi pour Rogers.
Pour les deux. Les deux savent ce qu'ils font, sont deux adultes consentants, hein. Il faut quand même regarder les choses en face. C'est-à-dire qu'à la fois Rogers, il est évidemment, c'est un homosexuel notoire, il est attiré par le jeune Jimmy et il se dit, voilà un ange, et pourquoi pas coucher avec un ange, hein. Et de l'autre côté, Jimmy Dean, il a envie de réussir dans ce milieu-là, il a 20 ans, il sait que ce type est influent, qui peut lui ouvrir des portes. Par ailleurs, il n'a pas de souci véritable à coucher avec des hommes, hein, parce qu'il a une vraie bisexualité. Donc il y va. Et finalement, cette relation qui ne sera pas seulement utile, elle sera aussi très affectueuse. Et c'est d'ailleurs Brackett qui l'emmènera après à New York, via Chicago. Et la découverte de New York par Jimmy, ça sera une révélation aussi absolue. Donc, ça sera une sorte de Pygmalion, on va dire. Voilà.
Et justement, James Dean arrive à New York et là, on rencontre un autre personnage que vous avez encore rencontré, Philippe Besson, qui est Jerry. Jerry,
ah oui.
C'est le patron d'un bar.
Oui.
Et là, on a une autre facette du James Dean qui est le type qui boit énormément et qui fume et qui fume et qui boit.
Ah oui, Jerry disait ça, c'est quelqu'un, pour moi, Jimmy, c'est quelqu'un qui fume et qui boit, parce que c'était clope sur clope et c'était verre sur verre. Et comme il était insomniaque et que le bar était ouvert très tard, il y a eu des cuites mémorables et des nuits très longues dans ce bar-là, qui explique la tête qu'il avait. Parce que quand vous voyez la tête de Jimmy Dean à New York, c'est vraiment la tête d'un poivreau. C'est bizarrement une ville dont il a attendu beaucoup, il a cru pouvoir être heureux, il a été admis à l'acteur studio, etc. Bon. Et finalement, ça sera une ville pour lui d'errance et de solitude. Donc ça sera un rêve inachevé, New York, mais Jerry sera un bon compagnon.
Je suis éreintée par le voyage.
Ben, reposez-vous, quoi. C'est les chats.
Stella, qu'est-ce que tu fous, bon Dieu ?
Et se lance par l'acteur studio dans le théâtre, et avec comme fascination, comme image, comme mythe, c'est Brando.
C'est-à-dire qu'il a vu un tramway nommé Désir, il a entendu Brando crier Stella au pied de l'escalier, et il a vu Brando porter des t-shirts aussi et avoir cette espèce de virilité décomplexée à l'écran, et il est tombé raide dingue de Brando et de son jeu d'acteur. Et il n'aura de cesse d'ailleurs que de rencontrer Brando, de le voir. Et donc je me dis d'ailleurs que le t-shirt de Brando dans Sur les quais par exemple, ou la moue boudeuse de James Dean ont plus secoué l'Amérique que beaucoup d'autres, et l'Amérique puritaine des années 50 que beaucoup d'autres révolutions.
Oui, c'est vrai que ça a fait avancer le monde. Mais avant de rencontrer Brando, il rencontre Tennessee Williams. Ça, c'est, oui. C'est intéressant parce que vous l'avez aussi rencontré, Tennessee Williams. Oui. Et c'est beau d'être romancier, Philippe Besson, parce que ça permet des choses comme ça.
Mais sinon, ça ne me serait jamais arrivé dans la vraie vie. Sans le roman, je n'ai aucune chance de rencontrer Tennessee Williams. Ouais.
Et Tennessee Williams a écrit une pièce, See the Jaguar, que James Dean va jouer. Oui. Et vous écrivez un truc que je trouve magnifique. Cette pièce, bon, c'est un four. Hein. C'est
monumental.
Un flop incroyable. Mais dans la bouche de Tennessee Williams, vous dites « On ne peut pas blesser les anges, ils peuvent juste finir par se tuer dans des accidents de voiture. » Mais c'est ça, James Dean, c'est un ange à ce moment-là. C'est un petit prince, c'est merveilleux à New York.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, des gens ont la grâce. C'est-à-dire que c'est aussi la raison qui m'a conduit à écrire ce livre-là. C'est que vous vous dites pourquoi 60 ans après sa mort, on continue à le regarder, on continue à avoir des affiches et des posters de lui, et pourquoi ses photos circulent toujours, pourquoi on continue à regarder les films, et pourquoi on croit que les films sont cultes. Pourquoi c'est tombé sur lui? Il y a un moment, on se dit, parce qu'il y avait plein de jeunes gens de 20 ans qui avaient cette tête-là, sans doute à ce moment-là. Sauf que c'est sur lui que ça tombe. Et c'est parce que, voilà, tout d'un coup, il y a chez lui quelque chose de surdoué, ou quelque chose de l'enfant terrible, ou quelque chose qui relève de la grâce, de l'évidence, de l'élégance, de tout ce qu'on veut, qui l'emporte sur tout le reste. Il y a quelque chose d'ineffable, d'insaisissable, de mystérieux, d'énigmatique, qui fait que ça demeure encore, voilà.
You know, it's too bad you didn't connect. You could have gone to juvenile hall. That's what you want, isn't it?
Well, sure it is. You want to bug us till we have to lock you up?
Why?
Leave me alone.
No.
I don't know why.
Go on, don't give me that.
Please lock me up. I'm going to hit somebody. I'm going to do something I don't...
Try the desk. Go ahead.
1954, James Dean... Il a une petite notoriété, parce qu'il a fait un peu de télévision, il a tourné dans quelques nanars, mais enfin bon...
Oui, il n'est pas connu, oui.
La concurrence est rude. Mmh. 1955, un an plus tard, il y a À l'Est d'Éden et La Fureur de Vivre. C'est incroyable quand même.
Il va tourner en un an trois très grands films, les seuls d'ailleurs qu'il tournera, trois films cultes. Les deux premiers en tout cas sont exceptionnels. À l'Est d'Éden, il y a 15 ans, adaptation de Steinbeck, où il joue d'ailleurs un personnage extraordinairement proche de lui, parce qu'il joue une sorte d'enfant qui cherche désespérément l'amour de son père sans jamais le trouver. Cette scène finale d'ailleurs où il apporte l'argent à son père, et l'argent qui pourrait sauver son père, et son père refuse l'argent, disant que c'est un argent mal gagné. Donc cette espèce de quête... qui n'aboutira pas de l'amour du père. Et ensuite, évidemment, La Fureur de Vivre, Nicolas Ray, film légendaire en couleur, parce que Jack Warner, comprenant le potentiel commercial de Jimmy Dean, dit on passe en couleur, et ça deviendra un film incroyable. Le blouson rouge de Jimmy va rentrer dans la légende, la scène de bagarre au couteau au planétarium sur les hauteurs de Los Angeles à Griffith Park, ça rentre dans la légende à ce moment-là, et ça dit quelque chose de l'Amérique des années 50, ça dit quelque chose du basculement générationnel qui se produit, ça dit quelque chose des parents qui ne savent plus parler à leurs enfants, des enfants qui n'ont pas envie d'aimer leurs parents et qui se construisent contre eux, de cette jeunesse désœuvrée qui ne sait pas très bien quoi faire et qui pourrait sombrer facilement dans la délinquance, de cette envie d'ailleurs, de cette envie d'échapper à toutes les contraintes. Ça raconte quelque chose de l'Amérique corsetée, puritaine. On est quand même le McCarthyisme, Eisenhower, tout ça, c'est quand même, franchement, l'Amérique n'est pas terrible, c'est pas encore l'Amérique de Kennedy. Hein. Et donc fondamentalement, Jimmy, il incarne ce moment Tom, d'une certaine manière, il est pile dans la photo, et par ailleurs, La Fureur de Vivre, Nicolas Ray, un film graphiquement parfait. Voilà, c'est extraordinaire.
Et puis il incarne aussi cette génération, cette tranche d'âge qui n'existait pas avant, qui est l'adolescence.
Oui.
Ouais, qu'avant on passait de l'enfance à l'âge adulte.
C'est ça.
Et là, ça apparaît, et lui, c'est le porte-étendard de toute cette génération nouvelle.
Exactement. On voit des jeunes gens qu'on n'avait jamais vus avant. Ils occupent tout l'espace, tout l'écran, toute l'histoire. Et ils sont trois, hein, dans ce film, il faut le rappeler. trois qui auront des destins tragiques, Jimmy Dean qui meurt à 24 ans, Natalie Wood qui a dans le film à 16 ans et qui finira noyée au large des îles Catalina au début des années 80 en tombant d'un bateau qui s'appelle le Splendor, en tombant accidentellement ou pas de ce bateau, et Sal Mineo qui est formidable dans le film, qu'on a oublié, mais c'est un acteur incroyable qui a 16 ans aussi dans le film et qui finira lui assassiné à 37 ans par les junkies.
Et dans ces trois films, à l'Est d'Éden, La Fureur de Vivre et Géant, on a un James Dean qui est sublime, qui est rayonnant. Et puis après, il y a le James Dean derrière la caméra, on va dire. Vous avez rencontré Philippe Besson, les trois réalisateurs, il y a 15 ans, Nicolas Ray et George Stevens. Et tous vous disent, ouh là 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 là, il nous en a fait voir, c'est une tête à claque, c'est une diva, enfin c'est très dur.
Ce qui était vrai, c'est-à-dire qu'il faut, moi je voulais pas non plus faire une hagiographie, donc il faut quand même dire qu'il était très turbulent, très tête à claque, qu'il en faisait qu'à sa tête, qu'il jouait effectivement un peu les starlettes. Et d'ailleurs, Rock Hudson, que je fais s'exprimer dans le livre, porte un témoignage assez négatif sur lui, et par ailleurs il volait la vedette à Rock Hudson, parce que logiquement la vedette de Géant, ça devait être Rock Hudson, sauf que sur l'affiche du film, c'est Jimmy Dean. Alors qu'il n'a qu'un second rôle dans Géant, hein, c'est bon. Ce qui est fascinant, c'est qu'il était très insolent et qu'il pouvait arriver en retard sur le plateau, qu'il n'en faisait qu'à sa tête et que surtout, comme il était dans une espèce d'urgence et d'impatience, il se lassait très facilement des choses. Donc sur Géant, en fait, ce qui le motivait, c'était juste de prendre sa voiture. Il venait de s'acheter une Porsche Spyder et d'aller faire une course automobile. Donc il était déjà dans autre chose. Donc c'était assez agaçant pour les gens. C'est-à-dire que vous le faisiez tourner, il est en train de vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la bagnole. Donc, franchement, c'était un peu saoulant.
Et surtout que Rock Hudson vous dit aussi à vous, Philippe Besson, que James Dean, c'est un rebelle. Mmh. Enfin bon, non, il est totalement dans le système, il est absolument pas rebelle du tout. Il vous dit ça.
Oui, alors, il, c'est vrai qu'il est dans le système hollywoodien et qu'il tourne des films, mais là où il est rebelle, dans la bouche de Rock Hudson, ça prend un sens parce que Rock Hudson va être quelqu'un qui va devoir dissimuler son homosexualité en se transformant en gendre idéal. On se souvient quand même que Rock Hudson, homosexuel parfait, on va dire, va quand même se marier, d'ailleurs cette année-là, pour faire taire les rumeurs. Donc, il voit dans Jimmy Dean quelqu'un qui ne fait pas les mêmes compromis que lui. Il voit chez Jimmy Dean une liberté que lui ne peut pas assumer.
Philippe Besson, il y a un personnage que vous avez croisé, je voudrais qu'on termine avec lui. C'est Donald.
Ah oui.
Donald Turnup Speed.
Oui.
C'est qui ?
C'est un étudiant de 23 ans qui conduit une Ford Tudor noir et blanc sur la route 466 le soir du 30 septembre 1955, sur le coup de 17h30, au moment où le soleil commence à tomber. Et il est en train de rentrer chez lui, Donald, et il voit arriver en face de lui, à vive allure, une Porsche Spyder 550. Il ne sait pas qui est au volant. Et il a besoin de tourner à gauche. Et il se dit, mais la voiture arrive quand même très vite, est-ce que j'aurai le temps ? Et Donald, il va avoir une seconde, une toute petite seconde d'hésitation. Il va se dire, non, j'ai pas le temps, donc il pile. Et puis après, il va se dire, allez, si, quand même, je devrais pouvoir y arriver. Donc il repart. Et quand il repart, et ben, il a pas le temps. Et donc, les deux voitures vont entrer en collision. Et donc, dans l'autre voiture, il y a Jimmy Dean et Rolf, un mécanicien d'origine allemande qui accompagne James Dean. Et le choc est très violent. Et les deux voitures vont terminer un peu en bouillie. Et sur les trois participants à cette collision, deux resteront vivants et un sera mort, la nuque brisée. Et celui-là s'appelle James Dean. On est le 30 septembre, sa vie vient de s'arrêter. Et la légende peut commencer.
Merci beaucoup, Philippe Besson. Merci beaucoup.
Merci à vous.
I received a call at 5:59 p.m.
J'ai reçu un appel à 17h59. L'accident a eu lieu sur l'autoroute 466 à l'intersection de la 41, vendredi 30 septembre 1955. Les véhicules se sont heurtés de plein fouet. On déplore deux blessés et un mort. La personne décédée est James Byron Dean. Il était mort à son arrivée à l'hôpital.
The dead was James Byron Dean, DOA, or dead on arrival at the hospital.
Take me far, says the mind unto the
all shine, then burn over like the stars in the night. So cast a dream and watch it glide to keep you merrily on the scene.
Confines, un titre signé The Black Pumas.
La toute première apparition de James Byron Dean à la télévision américaine, c'est dans une pub pour Pepsi Cola, en 1950. On le voit furtivement avec une bande d'amis, en train de danser et chanter autour d'un piano jukebox qui joue tout seul, le tout en buvant le soda suscité. Et du soda au blouson rouge, ça fait 60 ans que James Dean squatte les codes de la mode. Emmanuel Poncé, le rédac-chef du magazine GQ, journaliste super calé en hipster, preppies et autres prepsters, analyse pour nous l'intemporalité du James Dean style.
Même le physique de James Dean n'intéresse pas ceux qui ont aujourd'hui 20 ans. Mais pour ceux de sa génération, ceux qui en ont fait un mythe, que reste-t-il aujourd'hui de James Dean? Que reste-t-il pour un comédien devenu metteur en scène et qui a souvent incarné en France des adolescents rebelles? Qu'en reste-t-il pour Jean-Pierre Mocky?
Est-ce que James Dean représente pour vous un phénomène social important?
Plus maintenant, je le regrette parce que moi, pour moi, ça a été quelqu'un d'important, James Dean. Mais je crois que pour les jeunes d'aujourd'hui, James Dean, c'est un personnage folklorique comme... Buffalo Bill ou Tintin et Milou. Enfin, c'est un personnage qui a été un héros dans le temps.
Emmanuel Poncé, bonjour.
Bonjour.
James Dean est mort, c'était le 30 septembre 1955. C'est donc une figure du passé, évidemment. Néanmoins, il n'y a pas de nostalgie à travers ce personnage de James Dean. Au contraire, c'est une figure du temps présent, c'est une figure de modernité, James Dean toujours aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous, il est resté aussi présent, ce James Dean?
Pourquoi il est resté aussi présent? Vraisemblablement parce que on peut dire aujourd'hui qu'il a inventé la figure du hipster. Vous savez ce qu'on appelle les hipsters, c'est-à-dire ces mecs aujourd'hui qu'on croise dans la rue, qui sont avec des barbes, des chemises de bûcheron. Bon, c'est une version new-yorkaise, parisienne, berlinoise du hipster, mais plus largement, il a inventé dans les années 50, à travers les films comme La Fureur de Vivre et les quelques autres qu'il a tournés, cette figure de la jeunesse pop, de la jeunesse révoltée, de la jeunesse déviante, qui évidemment se traduit par un style bien précis, qui interprète certains codes, qui les détourne. Donc ça peut être les codes de ce qu'on a appelé le preppy, par exemple, qui est le style des prep schools. Donc on pourrait dire BCBG en français. Souvenez-vous, dans La Fureur de Vivre, il a souvent le col relevé, la cravate débraillée, il a son fameux blouson rouge. Bon, c'est un point de départ très très fort, c'est un peu la matrice de la panoplie adolescente. C'est Edgar Morin qui disait ça, le fameux sociologue. Il disait que James Dean avait inventé la panoplie adolescente, on pourrait ajouter de la jeunesse révoltée. Et aujourd'hui, en étant un peu pédant, c'est un proto-hipster en fait.
Oui, voilà, James Dean, proto-hipster, c'est une bonne première définition. Là, vous venez de dire jeunesse révoltée, Emmanuel, c'est sans doute aussi pour ça qu'il est aussi actuel. C'est qu'on a le sentiment quand même que cette jeunesse révoltée dont il porte l'étendard dans les années 50, elle est aujourd'hui aussi d'actualité. Les valeurs véhiculées par James Dean, elles ne sont pas du tout dépassées.
Alors, elles ne sont pas dépassées. La grande différence, c'est qu'elles sont désormais la norme. C'est-à-dire que la pop culture, la contre-culture, ces valeurs de rébellion, de révolte, de décalage, de distorsion par rapport à la norme, sont devenues la nouvelle norme. C'est-à-dire que c'est le conformisme de l'anticonformisme, en quelque sorte. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, ce qui était à l'époque, dans les années 50, ce côté exalté, révolté, on pourrait presque dire marginal, encore que on pourrait discuter de ce terme, sous des formes dégénérées presque, j'ai envie de dire, en exagérant un peu, sont devenues vraiment le lot de la pop culture aujourd'hui. Je vais prendre un seul exemple, un tube qui passe en ce moment sur les radios de Charlie XCX, dont le refrain c'est « I don't want to go to school, I just want to break the rules ». I don't want to go to school, I just want to break the rules. Donc ce côté, le clip s'est tourné dans une high school, hein. Souvenez-vous de ce lycée américain Dawson, de la fureur de vivre, où James Dean avait du mal à aller, il trouvait pas le chemin avec sa voiture. Ben aujourd'hui, c'est sur YouTube, 28 millions de vues, I don't want to go to school.
De manière identique, un des trois grands films de James Dean, c'est donc À l'Est d'Éden, où là, effectivement, à la fois il incarne un nouvel âge qu'est l'adolescent, qui n'existait pas finalement avant James Dean au cinéma, avec un rapport très compliqué à son père. C'est-à-dire que à ce moment-là de l'histoire du cinéma américain, arrive non seulement un jeune acteur qui fracasse tout, mais qui en plus est en écho à la société américaine de l'époque, dans un rapport conflictuel avec les parents. Ça, c'est tout nouveau aussi, et c'est terriblement l'actualité encore aujourd'hui.
Oui, c'est absolument passionnant, parce qu'à l'époque, en plus, il y a deux films et deux figures du père qui sont contestées par James Dean. Il y a un père très autoritaire dans East of Eden. Souvenez-vous de cette scène incroyable où James Dean jette des billets sur son père, où c'est vraiment la figure du père froid, autoritaire, le patriarcat dans toute sa splendeur, et le jeune exalté qui réclame éperdument l'affection de son père. Et puis, il y a ce deuxième film, La Fureur de Vivre, où là, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que Jim Stark, le personnage, se révolte contre un père qui est plus fuyant, qui est un peu barbe à papa, qui n'a pas de consistance et à qui il réclame de ne pas être une poule mouillée. Il lui dit « Mais dis-moi quelque chose, il faut absolument que tu incarnes cette figure du père, cette loi du père, dirait les psychanalystes. »
Il y a un autre aspect, Emmanuel Poncet, qui permet à James Dean de faire encore écho aujourd'hui, c'est sa dimension icône sexuelle, mais pas n'importe laquelle, icône bisexuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, il est déjà dans une hétérosexualité, mais aussi dans une homosexualité, assez bien assumée d'ailleurs. C'est très rare, d'une part, d'avoir les deux, comme ça, réunis en une seule personne, mais en plus, très vite, il l'assume assez facilement. Alors, facilement, c'est l'époque, hein, faut pas non plus raconter n'importe quoi, mais c'est vrai que, voilà, ces frontières sexuelles un peu floues, un peu ténues, fait qu'effectivement, il fait encore écho au temps présent, James Dean.
Alors, James Dean a été un proto-hipster, on peut dire que c'est une avant-garde du cross-gender, dirait-on aujourd'hui, ou
du croisement de genre.
Du croisement de genre, de ce côté éminemment bisexuel, assumé, revendiqué. Il faut bien se rappeler en effet qu'à l'époque, la plupart des acteurs qui étaient bisexuels ou des actrices étaient closetés dans le placard, comme on dit.
Cachés, bien sûr.
Cachés, et que lui, en effet, ça faisait partie de toute cette panoplie, une nouvelle fois, d'une jeunesse qui avait décidé de s'assumer dans tous les registres de sa vie, que ce soit la passion de la vitesse de l'automobile, que ce soit la passion vestimentaire, et que ce soit aussi, évidemment, le sexe fait partie de cette expression paroxystique de la jeunesse, évidemment.
J'aimerais, Emmanuel, parce que vous dirigez un journal de mode masculine, hein, JQ, j'aimerais qu'on passe en revue quelques photos, parce que James Dean a été évidemment l'objet de nombreuses photos, et de photos de mode, évidemment. Première photo, Emmanuel, elle est devant vous. C'est une photo donc en noir et blanc, il est avec un Stetson sur la tête. James Dean, est-ce que vous pouvez juste nous la décrire rapidement et nous dire ce qu'elle vous inspire, cette première photo de James Dean en cow-boy, finalement?
Oui, bah c'est James Dean dans Géant, hein, dans Giant. C'est Jet, il joue le personnage d'un employé de ranch qui tout à coup va devenir un mania du pétrole. Bon, ce qui est évidemment frappant, c'est tout d'abord le chapeau, le Stetson, qui renvoie à tout l'imaginaire du western. La seule différence qui frappe tout de suite, et on en a parlé, c'est sa jeunesse. C'est-à-dire que, comme on dit dans le jargon de la mode, c'est un statement. C'est-à-dire que c'est une...
Ça veut dire quoi ?
Donc une phrase, vraiment, une signature de mode. C'est-à-dire qu'on se met tout à coup un accessoire de mode pour revendiquer quelque chose. Bon, là, c'est un personnage de film, donc il faut le nuancer, c'est qu'il n'était pas habillé comme ça dans la vraie vie. Mais donc, il y a ce fameux Stetson, et puis il y a aussi un élément très important, c'est la chemise, c'est le denim, c'est l'usage du jean, je veux dire. Pour reprendre cette idée de panoplie vestimentaire de la jeunesse révoltée d'Edgar Morin, c'est que le denim est depuis 50 ans, 60 ans, un élément du vestiaire, qu'il soit masculin ou féminin d'ailleurs, des fameux hipsters, débranchés aujourd'hui. Alors en plus, il le fait avec ce décontracté qui lui est très propre, c'est cette chemise ouverte.
Oui, voilà, bien sûr. Et très sensuel, du coup. C'est un cow-boy très sensuel.
Très sensuel, ouais.
Autre photo, Emmanuel, une affiche de film qui est en couleur, cette affiche de film. Qu'est-ce que vous y voyez sur cette photo ?
Alors c'est l'affiche de La Fureur de Vivre, hein. C'est ce fameux blouson rouge, hein, en nylon rouge, qu'il porte sur un t-shirt blanc. Donc il y a la citation Marlon Brandesque du t-shirt blanc, et ce blouson rouge qui emporte tout, qu'il porte d'ailleurs sur un jean. Hein.
Et associé à la blondeur des cheveux
et
aussi.
Et associé à la blondeur. Donc là c'est le blouson des étudiants américains de l'époque. C'est une sorte de, là aussi, de signature de mode très importante. N'oublions pas que les blousons, dans l'histoire du cinéma, c'est quelque chose de très important. Il y a le blouson de Brando dans L'Homme à la peau de serpent, souvenez-vous. Il y a le blouson de Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown. Il y a le blouson de Ryan Gosling avec un scorpion dans le dos dans Drive. Donc ce blouson de La Fureur de Vivre, c'est peut-être là aussi une des matrices à la fois d'un vestiaire cinématographique et aussi de ce truc typique. Alors, c'est une couleur rouge, hein. C'est une couleur à la fois révolutionnaire, c'est une couleur éminemment sexuelle. Et si on se replace dans le film lui-même, au début du film, James Dean, donc Jim Stark, le personnage, porte un costume, il est dans un commissariat, il porte un costume noir sur chemise blanche avec une cravate noire. Et évidemment, toute la partie du film où il porte ce blouson rouge, c'est celui de sa progressive émancipation, de sa progressive, je deviens un homme, quoi, avec ce blouson. À la fois, je romps avec les codes de l'autorité classique et les codes de la bourgeoisie américaine. J'ai ma propre individualité, hein. Je fais juste une incise, mais dans Sailor et Lula aussi, Nicolas Cage parle de son blouson en disant « This is the symbol of my individuality ». Et donc là aussi, ce blouson est une espèce de deuxième peau adolescente qui sert à dire quelque chose à la société, aux femmes, et j'en tape le micro.
En effet. Troisième photo, Emmanuel Poncet. Elle est contemporaine, cette photo d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est en marinière. On voit, hein, cette photo qui a une sorte de photo couleur, hein, marinière à la Jean-Paul Gaultier. Il est terriblement beau sur cette photo. Qu'est-ce que vous en pensez de cette photo-là d'un James Dean qui pourrait faire la pub d'un parfum aujourd'hui, hein?
Cette photo est assez fantastique parce que elle pourrait tout à fait être dans une série de mode du magazine GQ. Elle pourrait être, si on refait dans l'histoire de la mode, les grandes icônes qui portent des marinières, il y a Picasso, il y a Jean Cocteau, Jean-Paul Gaultier, évidemment. Je n'oublie pas Arnaud Montebourg en couverture du Parisien Magazine.
Important.
Bon, certes, avec un moulin à café dans les mains, mais en tout cas, qu'est-ce que ça signifie, la marinière ? C'est ce qu'on appelle le style Riviera, donc un côté bohème chic, un côté éminemment contemporain, puisque aujourd'hui, tout le monde se revendique de ce léger décalage bohème chic. Je ne suis pas dans la norme, en même temps, je suis quand même un peu bourgeois, et je vais en vacances en Grèce ou sur la Côte d'Azur.
On voit très bien.
bout de la côte atlantique. Tout le monde le voit très bien.
On voit très bien.
Je crois. Et là, bon, bah, c'est d'un chic absolu, pub de mode, comme vous dites. Très clairement, en tant que rédacteur-chef de GQ, je l'embauche tout de suite pour la prochaine série de mode du magazine.
Vous signez, évidemment. Autre photo, différente, hein, celle-là de James Dean, Emmanuel. Il est assis sur une chaise pliante. Et là, je trouve qu'on change d'univers. Quand je vois cette photo, moi, j'ai l'impression... Alors évidemment, il y a la paire de lunettes hein, qui vient jouer le jeu. Mais on a l'impression d'un intellectuel américain, d'un écrivain, un Mick Kerouac. Il embrasse ça. On passait du cow-boy tout à l'heure à la John Wayne. Et là, soudain, on voit une photo de James Dean. En fait, oui, c'est le gars entre Samuel Beckett et Jack Kerouac. Quoi. Il y a un truc d'intello, presque.
Alors, c'est marrant que vous parliez de Samuel Beckett, parce que moi, j'ai tout de suite pensé à Samuel Beckett. Je me suis dit, incroyable, donc... Une fois, reprenons la figure archétypique de James Dean. C'est le jeune un peu écervelé au volant d'une voiture au point qu'il en meurt. Et là, dans une version intello-chique, lunettes en écaille, les jambes et les baskets. Important les baskets aussi. Donc ça donne ce côté chic, décontracté, que nous appelons à GQ le côté prépi. On a même inventé un terme, c'est le terme de prepster.
Eh oui.
Alors James Dean, c'est tout simplement le jean et le t-shirt blanc. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement banal, complètement normal. On est dans les années 50 aux États-Unis, c'est ni normal ni banal. C'est un vêtement ouvrier. Le jean, c'est le pantalon des ouvriers vachés, les fameux cow-boys. Et le t-shirt blanc, c'est un uniforme militaire. C'est ce qu'ont les troufions sous leur vareuse. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi les filles en sont folles? Parce que c'est la première fois aux États-Unis qu'il y a un héros qui est censé venir de la classe ouvrière de chez les prolos.
Take it easy driving. Life you might say might be mine.
Et d'un seul coup, ça va devenir l'uniforme de toute la jeunesse américaine pour jusqu'à aujourd'hui.
Une question qui va vous faire plaisir, Emmanuel. Parce que en travaillant un peu sur James Dean, je me suis dit. Quelque part, c'est un peu un héros, je ne sais pas si on dit bourdivin ou bourdieusien, mais...
Plutôt bourdieusien.
On dit bourdieusien. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un destin classique, James Dean. Si on parle de capital culturel, puisqu'on parle de Bourdieu, on est au bord du néant. Il ne faut pas oublier qu'il avait du mal à lire, par exemple, James Dean. Ce n'était pas un grand lecteur, il a eu des difficultés à apprendre à lire. Et en même temps, c'est une réussite sociale totale, notamment auprès des classes populaires. Il a embrassé le monde entier dans sa popularité. Et je me disais, voilà, en pensant à Bourdieu, c'est un héros bourdieusien, ce James Dean, quand même.
Bah, bon, bourdieusien, c'est peut-être un peu exagéré, pardon, Philippe. Hein, mais,
allez-y.
J'avais presque envie de dire... plutôt sartrien, en fait. C'est-à-dire, je me souviens...
Okay.
Non, mais c'est juste parce que je pense à une phrase de Sartre qui disait « Les intellectuels sont des produits loupés des classes moyennes ». Et j'ai l'impression que James Dean aussi est un produit loupé des classes moyennes. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce côté « Je ne me sens appartenir à aucune famille. Je ne me sens appartenir à aucune classe sociale. Bah, je fonce, dans tous les sens du terme. Et finalement, je vais droit sur mon désir. » Et mon désir de vitesse, mon désir d'exister, mon désir de faire l'amour, mon désir et ainsi de suite. Bon, certes, il n'avait pas forcément un capital culturel très important, comme vous dites, mais c'est justement pour cela que nous projetons autant dans ces figures mutiques qui ont ce charme des gens qui ont du mal à s'exprimer d'une certaine manière ou qui le font de manière désordonnée, maladroite. Et James Dean, c'est vraiment ça, c'est que quelle figure aujourd'hui permet de projeter autant de choses, j'en vois peu.
Voilà. Moi, je me posais la question aussi. Et c'est vrai que je me dis, tiens, je vois pas de James Dean d'aujourd'hui. Un Pattinson ou un Zac Efron, c'est pas la même chose quand même.
Non. En revanche, je crois beaucoup justement à ce côté. Vous avez une matrice, une icône, et cette icône génère des sortes d'avatars. Et aujourd'hui, il y a des dizaines d'avatars de James Dean. James Franco en est un, au point qu'il l'incarne. Ryan Gosling, il est aussi extrêmement James Deanesque parce que bon, il a cette blondeur, il a cette beauté, il a alors un mutisme. Le film qu'il a fait connaître, c'est Drive, hein, où il incarne quelqu'un qui conduit vite également, comme James Dean, qui est mutique et qui a du mal à exprimer ses sentiments. Mais il y en a d'autres. Je veux dire, le phrasé de Matthew McConaughey, par exemple, me fait parfois penser, que ce soit dans Trou Détective, dans Le Loup de Wall Street ou d'autres. Alors évidemment, on se dit, c'est ou dans Magic Mike, c'est pas exactement la figure de James Dean, mais c'est un certain avatar, une manière une manière de s'exprimer, un certain phrasé qui résonne. Voilà. Donc James Dean n'a pas d'héritier direct, mais une multitude d'avatars, plus ou moins contestables.
Terminé, Emmanuel Poncet, voilà, on l'a dit plusieurs fois, vous dirigez la rédaction du magazine GQ. En septembre prochain, il y aura donc le 60e anniversaire de la mort de James Dean. Est-ce que le patron de GQ peut se dire, tiens, banco, on tente de mettre James Dean en une du magazine au mois de septembre, parce qu'après tout, il y a un anniversaire et puis ça reste une icône de la mode, une icône de la pop culture. Ou alors, est-ce que c'est quand même un petit peu dangereux, et parlons affaire, est-ce que ça serait une affaire de vente, de mettre James Dean en une, ou alors pas du tout, ce serait dangereux pour le journal?
Alors ça se tente, d'un strict point de vue éditorial et même personnel, je serais absolument ravi qu'on mette James Dean en couverture, mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il faut y aller avec beaucoup de prudence, pas seulement pour des raisons de vente ou commerciales, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a quelque chose de muséal, une statue de cire, musée Grévin, dans cette figure de l'éternelle jeunesse, et que finalement, est-ce que encore aujourd'hui, on des lecteurs comme les nôtres, hein, qui ont souvent entre 25 et 45 ans, pour le résumer un peu caricaturalement, est-ce qu'il incarne aujourd'hui, il incarne incontestablement une référence de mode, une référence du cool, la référence d'une génération? Mais est-ce qu'elle est toujours opérante aujourd'hui, et est-ce qu'elle déclenche, si vous me passez l'expression, des lecteurs aujourd'hui? J'en suis moins sûr, tout simplement parce que il y a eu d'autres icônes après, hein, je veux dire de Kurt Cobain dans les années 90, à bien d'autres. Je veux dire aujourd'hui la pop culture, le rock, toute cette culture issue des baby boomers. Il y a eu entre-temps le hip-hop, le punk, et donc il n'est pas sûr qu'il déclenche à ce point les lecteurs. Donc pour vous répondre très clairement, je crois que je vais étudier le dossier.
Voilà, et à défaut de la une, vous ferez un dossier, non?
On fera un gros dossier. Non, mais là,
un gros dossier.
En revanche, on peut faire, alors, là, ce qu'on peut faire sans hésiter, c'est une sorte de hors-série consacrée à James Dean en tant qu'icône de style. Que peut-on aujourd'hui prendre dans la panoplie de James Dean? À peu près tout.
Ben oui. Merci beaucoup de votre analyse.
Merci à vous.
Emmanuel Poncet, j'encourage nos lecteurs à lire GQ, le magazine GQ. Prenez soin de vous, Emmanuel, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Salut.
Le 30 septembre 1955, James Dean mourait au volant de sa voiture. Il était l'image d'une certaine jeunesse de l'après-guerre. Pour marquer ce 20e anniversaire, ITA 13h présentera mardi 30 un hommage au célèbre acteur américain avec de nombreux documents inédits. Le soir même, vous pourrez assister à la projection en avant-première d'un des trois films qui ressortent de nouveau sur les écrans du cinéma Hollywood Boulevard, À l'Est d'Éden, La Fureur de Vivre et Le Géant. Pour ces projections, vous pourrez retirer vos invitations d'avant-première lundi après-midi, 15 rue Cognac-Jay.
Bon, et si vous avez raté les avant-premières de la rue Cognac-Jay, pas de panique, vous pourrez vous rattraper, ça fait bien longtemps qu'À l'Est d'Éden, La Fureur de Vivre ou Géant existe en DVD. Et voilà, c'est la fin de cette émission, alors merci à notre réal Pierre Jabot, assisté aujourd'hui de Julien Dumont.
Et puis Moji, il ne faut pas oublier Joy Raffin.
Joy Raffin, la voix narrative de cette émission.
Merci beaucoup Joy, à la semaine prochaine.
Bye folks, and see you next week.